France Maghreb 2. France Maghreb 2.
Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble.
Monsieur l'ambassadeur de la Tunisie à l'UNESCO, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir ici dans l'enceinte de l'UNESCO, dans vos bureaux. Peut-être pour présenter aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent, quel est le rôle de la Tunisie au sein de l'UNESCO ?
D'abord, merci de vous être déplacé à la délégation de Tunisie auprès de l'UNESCO et de l'Organisation de la Francophonie. C'est vrai que nous sommes à la rue Miolis, c'est-à-dire dans ce bâtiment qui abrite la majorité des délégations des pays membres de l'UNESCO. Alors, entre la Tunisie et l'UNESCO, c'est une longue et grande histoire. Mmh. La Tunisie fêtera, et je pense l'UNESCO aussi, en novembre prochain, les 65 ans de l'adhésion de la Tunisie à l'UNESCO. La Tunisie est l'un de ces pays, ils ne sont pas très nombreux, qui avaient même demandé à adhérer à cette organisation avant même d'atteindre et d'obtenir son indépendance totale. La Tunisie avait fait une demande alors même que l'indépendance n'avait pas encore été totalement acquise. Ouais. Et ça a été soumis aux Nations Unies qui avaient autorisé à ce que la Tunisie adhère à l'UNESCO avant son indépendance. Mais heureusement que le temps que l'UNESCO réagisse, la Tunisie a obtenu entre-temps son indépendance. Ça montre que la Tunisie piaffait déjà à rejoindre cette enceinte importante pour différentes raisons. D'abord parce que c'est la maison universelle de la culture, de la science et de l'éducation. Or, ces trois secteurs sont importants pour la Tunisie. Le jeune État indépendant qu'était la Tunisie de 1956 avait misé. Et je crois que nous sommes tous d'accord maintenant pour dire que c'était un choix éclairé et judicieux, avait misé sur une éducation de qualité, générale, gratuite, paritaire et égalitaire. Ce qui nous a donné la société de la Tunisie que nous connaissons aujourd'hui. Ce que certains appellent l'ascenseur social, dont le contexte tunisien a été favorisé essentiellement par l'école publique. À ce moment-là, la Tunisie venait défendre ses valeurs et bénéficier du soutien et de l'accompagnement de l'UNESCO. Je parle de cinq décennies en arrière. Ouais. La Tunisie, avec la richesse culturelle et patrimoniale qu'on lui connaît, est venue à l'UNESCO faire parler de son patrimoine. Il y a eu un très généreux programme au début des années 70 pour sauver Carthage. À l'époque, ça s'appelait comme cela, et c'était avant la mise en place du système des inscriptions et de ce qu'on appelle ici la Convention de 72 sur le patrimoine culturel et naturel. Et la Tunisie, donc, est un acteur précoce de la question du patrimoine au sein de l'UNESCO, et notamment mon prédécesseur, l'ambassadeur de Tunisie, qui était là en 1971-72, Sissaïd, avait présidé le comité de rédaction qui a rédigé la convention qui est aujourd'hui quelque part la norme de référence pour le système mondial de protection du patrimoine culturel et naturel. Ça veut dire que à tout moment la Tunisie s'est considérée à l'aise ici à l'UNESCO, chez elle à l'UNESCO. Ouais. Et en tout état de cause, elle a toujours épousé les grandes causes défendues par cette maison universelle de la culture et, comme certains disent, la conscience intellectuelle du système des Nations Unies. Je suis heureux de vous dire que ces dernières années, la Tunisie a retrouvé son orbite normale. Ouais. Ici à l'UNESCO par une intensification visible et tangible de son action. Je pense par exemple en une direction qui est relativement récente, nous qui parlions de six décennies en arrière, mais la mise en place par exemple d'un système de protection du patrimoine immatériel, c'est un mécanisme.
Qu'est-ce que le patrimoine immatériel pour qu'on comprenne
C'est
bien.
Un mécanisme qui remonte à 2003 à l'UNESCO. Ça veut dire en fait la protection de notre culture vivante.
D'accord.
Nous sommes très heureux d'avoir porté tour à tour des dossiers très significatifs, ouais, tant ils représentent la profondeur historique et civilisationnel de la Tunisie, et tant ils sont représentatifs de la diversité de la composition culturelle dans notre pays. On a commencé par les savoir-faire des femmes de Sejnen, avec tout ce que cela...
La poterie, par exemple
Il n'y a pas que la poterie comme technique, mais cette capacité qu'ont les femmes de cette région depuis des siècles d'être créatrices, d'être actives sur un plan économique, par moments même autonomes économiquement, et leur capacité ancestrale à fabriquer le beau de la vie de tout le monde et désormais de la vie de la communauté internationale. À la suite de cela, dans un très beau dossier en commun avec d'autres pays arabes, on a inscrit toute la culture, le savoir-faire, les traditions, l'artisanat lié par exemple aux palmiers dattiers. Et voilà, c'est toutes nos palmeraies, tout le sud tunisien qui est ici mis à l'honneur. Après cela, nous avons inscrit un dossier particulièrement lié à une tradition de pêche tunisienne dans la région de Qarqna. C'est ce qu'on appelle la pêche à la charfia, et qui est une démonstration de l'intelligence du Tunisien depuis très longtemps dans son rapport à la nature, et qui est un rapport d'abord de respect de cette nature. Deuxièmement, d'en utiliser les capacités et les ressources de manière rationnelle et rationnée, ce qui laissait à cette nature la possibilité de se protéger, de se reproduire, et sans aucune exagération, cela préservait les richesses halieutiques, et il y a eu un très grand retentissement ici à l'UNESCO à l'inscription de ce très beau dossier, parce qu'il coche toutes les cases. À la fois, il montre la capacité et l'adaptation de l'homme par rapport à sa nature et son environnement. Deuxièmement, en tirer profit sur un plan alimentaire et économique, mais surtout de laisser la nature en capacité de se régénérer, ce qui, en termes modernes, veut dire un rapport équilibré et écologique à la nature. Bien entendu, les médias, et notamment français, avaient souligné un autre dossier qu'on a inscrit en décembre dernier aussi avec nos frères maghrébins, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont présenté un dossier aussi qui est lié à une séquence importante, je l'ai même qualifié de marqueur de la maghrébinité, à savoir le couscous.
Le fameux.
Mais pas que le plat, c'est pas la recette qui a été inscrite, mais c'est l'élément culturel, c'est-à-dire ce moment qui marque la vie des familles dans leur diversité, dans leur différence. Et on sait que le couscous accompagne d'abord le plat de rencontres familiales et conviviales hebdomadaires, mais au-delà, dans les fêtes, dans les moments de joie, dans les moments de grande solennité et parfois même dans des moments de deuil. Donc, voici un élément. Alors la presse française et internationale glosait sur qui a le meilleur couscous et ou qui est le premier à l'avoir fait. Moi j'ai toujours dit que c'était on cherche une réponse à une mauvaise question. Le couscous est antérieur à l'ensemble des formes politiques et géopolitiques du Maghreb. Le couscous existait avant que ces états même n'existent, donc on ne cherche pas à une réponse dans des phénomènes postérieurs à une manifestation civilisationnelle antérieure. Nous sommes très heureux d'avoir cette diversité. Vous pouvez trouver, pour ne parler que de la Tunisie, mais un couscous aux traditions sahariennes, il sera probablement très peu saucé avec de la viande de mouton. Mais si vous allez vers les côtes, ça va être de plus en plus saucé et ça va être de plus en plus avec des produits que nous donne la mer. Et on peut aller jusqu'à des configurations qui étonnent certains, mais en tous les cas, en Tunisie, quand on vous offre un couscous au mérou, ça veut dire qu'on est très content de vous recevoir. C'est considéré comme un ex plus ultra. Alors, il y a des déclinaisons et je crois que l'UNESCO souligne que ce n'est pas un patrimoine figé, c'est un patrimoine vivant. Alors, et donc, il ne faut pas chercher à retrouver exactement le couscous qui se préparait il y a deux siècles, puisque c'est un élément de culture vivante. Il s'adapte et nous sommes très heureux que maintenant, vous allez n'importe où dans le monde, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, vous trouverez quelque part un restaurateur qui vous proposera un couscous, peut-être qu'il n'est pas parfait aux yeux de certains puristes, mais en tous les cas, ça montre la circulation de la culture maghrébine. Et en ce qui nous concerne, les déclinaisons tunisiennes de ce couscous, nous en sommes à la fois fiers, mais surtout nous en soulignons l'extrême diversité. Et je crois que c'est ça une dynamique civilisationnelle. Ce n'est pas l'uniformité, mais c'est le patrimoine à la fois vivant, diversifié et, j'allais dire, se diversifiant de plus en plus.
Extrêmement intéressant. Encore une fois, merci de nous recevoir, monsieur son Excellence l'ambassadeur délégué permanent à l'UNESCO, monsieur Rahiri, aujourd'hui. Alors, vous œuvrez beaucoup à titre personnel, vous travaillez beaucoup, vous faites, vous prenez part à beaucoup de commissions et vous avez fait installer un rendez-vous, je crois, annuel, la fenêtre de cinéma sur la Tunisie. Et pendant une semaine à l'UNESCO, nous regardons que des films tunisiens.
Oui, nous avons organisé déjà deux éditions de fenêtres au pluriel sur le cinéma de Tunisie. D'ailleurs, et on explique pourquoi on dit cinéma de Tunisie, non pas tunisien, parce qu'on y voit une différence. Et nous étions très heureux, c'était avant Covid, de voir des centaines de personnes venir assister à des présentations de films, que ce soit dans les locaux de l'UNESCO, dans les locaux de la francophonie, de l'organisation de la francophonie. On en avait organisé pour nous rapprocher des étudiants à la Maison de Tunisie, mais également à l'époque, on avait un partenaire qui était le CNC, le Centre National du Cinéma Français, ouais, qui nous avait accueillis pour un débat. Alors, l'idée, c'est de montrer un segment des plus vivants et des plus consacrés, désormais au plan international, qui est le cinéma tunisien. Tout le monde sait que le cinéma en Tunisie a été dynamique depuis très longtemps. Il a toujours été irrévérencieux par rapport au discours et à la doxa officielle et a été le relais de beaucoup de revendications sociales, catégorielles, démocratiques, etc. Et donc l'idée que la délégation de Tunisie installe sur l'agenda international ici à Paris un rendez-vous annuel était, je crois, une idée utile. Et le cinéma tunisien est tellement maintenant diversifié, riche et consacré au plan international qu'il mérite pareil rendez-vous. Et je remercie tous les partenaires qui nous ont permis d'installer cela. Et nous avons hâte et nous travaillons déjà à la troisième édition en décembre 2021. Mais maintenant, la grande question, est-ce qu'on va pouvoir revenir à un format présentiel ou comme la deuxième édition? Nous l'avions organisé en décembre dernier, mais en virtuel total. Mais ça avait ses avantages parce que c'était pendant la période des fêtes et des vacances. Et donc, on pouvait atteindre tous les collègues, même ceux qui étaient partis en vacances, puisqu'on leur envoyait le lien et ils regardaient les films. Et cette année, nous avions laissé une place importante et nous en étions contents en cette deuxième édition pour les documentaires et les courts-métrages. Et donc voilà, ça c'est une autre belle histoire écrite ici et j'espère on lui a donné les raisons d'une pérennité et j'espère d'une irréversibilité et que ce rendez-vous s'installe dans la durée à Paris.
Alors parmi les projets que vous avez proposés, Sidi Bou Saïd comme ville créative de l'UNESCO, en quoi Sidi Bou Saïd est une ville créative selon vous, monsieur l'ambassadeur?
Alors je remonterai un peu plus loin pour expliquer cette démarche. Alors l'équipe qui a été élue lors des élections municipales de 2019 et qui dirige aujourd'hui la municipalité de Sidi Bou Saïd, qui est une équipe dynamique, jeune, assez représentative de la diversité de la communauté et de la société à Sidi Bou Saïd, s'est approché de la délégation pour voir dans quelle mesure on pourrait proposer un dossier à l'inscription de Sidi Bou Saïd sur le patrimoine, sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Ouais. Sidi Bou Saïd offre beaucoup de raisons d'y croire, mais sauf que la Tunisie a déjà 12 dossiers qui sont dans le paille pour des inscriptions. Donc si Sidi Bou Saïd, et je crois qu'elle mérite, en tous les cas, il y a lieu de mettre un dossier en route, prendra du temps ce dossier. Et donc, je leur ai dit, il y a aussi une autre voie qui n'est pas, qui ne remplace pas l'autre. Hein. Les deux peuvent être mises en route, mais l'une aboutira plus vite que l'autre, celle de faire inscrire Sidi Bou Saïd dans un autre réseau de l'UNESCO, celui des villes créatives. Il y a 3 ans de cela, on avait inscrit la ville de Tunis comme ville créative. C'est un réseau de villes de l'UNESCO qui s'inscrivent dans ce réseau sur une base ou sur une autre. Ça peut être le patrimoine, ça peut être le culinaire, ça peut être le touristique, ça peut être l'artisanat, ça peut être une dynamique ou une autre. Et nous, nous poussons pour que plusieurs villes tunisiennes soient inscrites pour des raisons différentes. Nous pensons à Tabarka pour le jazz, nous pensons à Kelibia pour le festival et la dynamique pour le cinéma amateur. Nous pensons au KEF pour, bien sûr, le rôle de pôle culturel dans cette région. Et nous pensons aussi à Sidi Bou Saïd. Et il y a eu cette initiative que nous appuierons en vue d'une inscription de Sidi Bou Saïd, mais d'autres villes tunisiennes aussi, sur et au réseau des villes créatives de l'UNESCO.
Alors parmi les produits qu'on évoquait tout à l'heure, évidemment le couscous, mais il y a un produit phare quand on est tunisien, c'est la fameuse harissa.
Oui, c'est un dossier important qui a été déposé déjà. On a remis le dossier l'année dernière au secrétariat de la Convention sur le patrimoine immatériel et on s'attend à ce que cette inscription advienne d'ici 2022, fin 2022. Tout le monde sait que c'est un élément incontournable pour la cuisine tunisienne.
Ah oui.
Et vous savez, maintenant, les jeunes, et même les moins jeunes, qualifient les Tunisiens, ils s'auto-qualifient comme « Cha'b l'Harissa », ça veut dire le peuple de l'Harissa. J'espère qu'ils veulent dire par cela qu'ils sont dynamiques, qu'ils sont par moments, et s'il le faut, dans le bon sens du terme, virulents. Et ça veut dire qu'on est... On ne passe jamais indifférent, on n'est jamais, en tous les cas, indifférent à la présence d'un Tunisien. Si c'est ça ce qu'ils veulent dire par cela, bien entendu, c'est l'esprit, que l'esprit de ce dossier. Mais entre les deux, entre le dernier, c'est-à-dire le couscous et l'harissa, il y a un autre dossier collectif aussi, qui est très beau. Par sa qualité artistique aussi et sa qualité culturelle. C'est un dossier que nous présentons avec 14 autres pays sur la calligraphie arabe.
Ah, très bien.
L'art de la calligraphie est un art d'un grand raffinement, d'une grande sophistication. Il y a plusieurs écoles de calligraphie et nous, nous défendons à l'intérieur de ce dossier global, les spécificités de l'école tunisienne et notamment l'école kérouanaise, ce qu'on appelle Al-Khat al-Maghribi, ce qui peut-être en arabe peut être compris comme la calligraphie marocaine, mais en fait veut dire la calligraphie maghrébine. Et donc il y a une école maghrébine et à l'intérieur de cette école maghrébine, il y a une spécificité tunisienne et kérouanaise. Et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent et sont de passage du côté de Kermont qu'ils fassent un détour par Raqqada, là où il y a un très beau musée, et ils trouveront des pièces d'une extrême beauté où on voit cette calligraphie sur des parchemins de très grande valeur et où on voit des expressions des plus belles de cette école kérouanaise de l'écriture et de la calligraphie arabe.
Monsieur l'ambassadeur auprès de la Tunisie, auprès de l'UNESCO, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre un petit peu les activités de votre délégation à l'UNESCO sur Internet pour celles et ceux qui sont intéressés par la culture tunisienne et la culture maghrébine? Est-ce qu'on peut suivre un petit peu les travaux pour le grand public?
D'abord, je dois dire que nous sommes très heureux que le grand public s'intéresse à ce qui se fait ici. Et il y a plusieurs relais. Alors, nous n'avons pas vocation, en réalité, nous faisons un travail essentiellement diplomatique ici.
Oui.
Nous n'avons pas vocation à créer beaucoup de contenu, mais nous donnons des éléments d'information. D'abord, il y a un compte Twitter, il y a une page Facebook, mais ça reste quand même d'une information de première main.
Oui.
Mais par contre, nous sommes contents que beaucoup de médias nationaux, régionaux et internationaux s'intéressent à ce que nous faisons, et votre présence ici on est la preuve.
C'est bien normal.
On trouve des traces et des échos. C'est variable parce qu'il y a des dossiers qui interpellent plus l'opinion publique que d'autres. Par exemple, quand on arrive à une inscription et c'est une apothéose et on en est très content et tout le monde c'est-à-dire réagit à cela, mais quand vous obtenez un poste pour un Tunisien dans un poste de très grande responsabilité à l'UNESCO, où vous obtenez des bourses, où vous déplacez les curseurs sur un dossier administratif, ouais. J'avoue que cela, et je ne le regrette pas, c'est une réalité évidente que nous comprenons parfaitement, cela n'est pas forcément, n'a pas vocation à être spécialement médiatisé. Donc il n'y a dans les médias que les échos par rapport à des réalisations, on va dire, importantes, tangibles, ou qui apportent des, pour parler de l'UNESCO, des inscriptions ou des labellisations, comme on dit maintenant ici. C'est très bien. Je crois qu'il y a aussi un rôle que la société civile tunisienne mène d'une très belle manière et d'une très belle, de très haute facture, celle de l'accompagnement, dans le sens où quand il y a des choses qui sont faites, il y a un retentissement, mais parfois c'est la société civile qui attire l'attention, ouais, des autorités. Je prends pour exemple un dossier qui a accaparé l'attention des médias tunisiens la fin du printemps dernier. Il y a eu des velléités de mise en vente sur une maison de vente chez Drouot à Paris, de pièces qui ont une valeur patrimoniale. En Tunisie, il y a eu un intérêt médiatique, et beaucoup de médias en Tunisie, et même des médias internationaux, s'étaient intéressés, et nous avons été en mesure, et nous en sommes fiers, de retirer les pièces de cette vente que l'Institut national du patrimoine tunisien qualifie comme patrimoine national. Cela ne remettait pas en cause la propriété privée de ceux qui les possédaient, mais vous savez, quand vous êtes une personne privée et vous possédez des biens qui ont une valeur patrimoniale, leur déplacement, leur sortie du territoire, ouais, leur vente ou leur cession dépend de certaines conditions légales en Tunisie, et nous sommes très heureux d'avoir trouvé la voie, dans les deux orthographes possibles d'ailleurs, nous avons trouvé la voie qui a permis que cela soit traité de manière sereine, en protégeant le droit de propriété des personnes privées, mais aussi la pérennité et la protection du patrimoine tunisien. Voici une histoire où c'est l'inverse qui s'est passé. C'est la société civile qui a commencé par alerter, et c'est l'Institut national du patrimoine, le ministère de la Culture en Tunisie, et ici même à Paris, la délégation de Tunisie auprès de l'UNESCO. Et ça aussi, ce sont de nouvelles méthodes, j'allais dire, que nous ramène la nouvelle situation en Tunisie.
Alors, il faut qu'on parle d'un événement aussi qui aura lieu au mois de novembre, c'est la 18e édition du sommet de la francophonie qui se déroulera cette année à Djerba. Quel en est le thème et les objectifs cette année ?
Je dirais que les 20 et 21 novembre, Djerba va accueillir le sommet des chefs d'État de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le 18e sommet de cette organisation. Il correspond à un moment important de l'histoire de cette organisation, puisque c'est le sommet du cinquantenaire, même si, vu le report à cause de Covid, le cinquantenaire aura une année en plus. Ouais. C'est un sommet important, c'est un événement important pour la Tunisie, mais je dirais que le sommet politique, c'est-à-dire la rencontre des chefs d'État, serait le point d'apothéose d'une série d'événements qui va commencer dès l'été prochain, puisqu'il y aura à la fois le congrès des professeurs de langue française, il y aura le congrès international des écrivains francophones, il y aura les états généraux de l'édition francophone. Il y aura une rencontre des ONG francophones, etc. Le forum économique, la conférence ministérielle et en fin de parcours et en apothéose, le sommet des chefs d'État. Donc, il y aura un certain nombre d'événements importants. Si vous me le permettez, je voudrais quand même dire que cette organisation internationale de la francophonie qui va fêter son cinquantenaire est une organisation que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, a été créée à l'initiative de leaders qui ne viennent pas des pays du Nord. Elle a été créée pas à l'initiative de leaders des indépendances, comme le président Feu, le président Bourguiba, Feu, le président Senghor, etc. Je crois aussi le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, etc. Donc voici un cas assez intéressant dans la cartographie des organisations multilatérales, où nous avons aujourd'hui une organisation qui a près de 87 États entre membres pleins et observateurs et membres associés, et où il y a une très forte demande d'adhésion d'autres États, y compris de régions qui sont considérés peut-être plus développés économiquement, etc. Et alors que le noyau d'origine est venu de ces pays-là, je crois qu'il y a lieu de le souligner et il y a lieu d'en trouver les traces dans l'ADN même de cette organisation, notamment par rapport à ce que cette organisation appelle ses valeurs, les valeurs de la francophonie. Alors bien sûr, l'élément de départ était d'avoir le français en partage, mais au-delà de cela, il y a d'autres valeurs qui sont cardinales pour cette organisation, la solidarité, la démocratie, l'égalité homme-femme, le respect de l'environnement. Et vous voyez, certains éléments sont plus modernes politiquement que d'autres, mais aujourd'hui, c'est le socle de valeurs que cette organisation veut porter. Et c'est l'une, d'ailleurs, des organisations qui est, si ce n'est la première, qui a la plus grande attractivité, puisque le nombre de pays qui y adhèrent et qui demandent à y adhérer est le plus élevé aujourd'hui de l'ensemble des organisations multilatérales.
Deux petites questions, monsieur l'ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO, pour terminer cet entretien. Et encore merci de nous avoir accueillis dans vos bureaux, ici, dans l'enceinte même de l'UNESCO. Quelles sont vos relations avec les pays voisins du Maghreb, que sont le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Libye ? Première question, et en quoi la pandémie de la Covid-19 a-t-elle eu un impact sur vos travaux ?
J'ai parlé du dossier du couscous en disant les pays frères.
Oui.
Et donc j'ai mis cela dans le cadre de la fraternité. C'est absolument comme cela que nous entendons les choses. D'abord pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons une très longue histoire commune. Nous faisons montre d'une civilisation et d'une culture commune. Et notre proximité et nos intérêts se rejoignent. Et nous avons une très belle collaboration et un soutien mutuel, même s'il est diversifié d'un pays à un autre. C'est-à-dire chaque binôme peut avoir des centres d'intérêt différents d'un autre. Mais le dossier du couscous a montré que cela était possible et qu'on peut ici ou là parler des tensions qui peuvent exister entre certains pays membres du Maghreb. Et certainement,
elles n'ont pas d'impact.
Non, c'est une réalité,
oui.
Mais il faut voir et croire donc que cela n'est pas un handicap pour réaliser des choses en commun.
D'accord.
Alors je profite de l'espace que vous m'offrez pour répondre à une question qui est souvent posée. On dit, mais pourquoi il n'y avait pas la Libye dans le dossier couscous, alors que nous savons, sur un plan historique et civilisationnel, qu'au moins la partie tripolitaine de la Libye a cet élément. Vous savez, Ibn Khaldoun, dans sa Muqaddima, définissait les Maghrébins. Et parmi les éléments qui définissait les Maghrébins, c'était une manière de s'habiller, une manière de se couper les cheveux et une manière de manger. Et ils disaient que les mangeurs de couscous, autrement dit ceux qui en faisaient un élément de leur cuisine, faisaient partie du Maghreb. Et la Libye, bien entendu, fait partie, sauf que pour des raisons juridiques, la Libye n'a pas ratifié la convention de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel, et que donc le jour où elle le ratifie, et moi je lance depuis votre micro un appel à mes amis et frères libyens, et ils le savent, je leur ai dit, ratifiez vite pour que vous nous rejoigniez. Cela vous montre que donc il n'y avait pas une exclusion en tous les cas par rapport à nos amis libyens, par rapport à ce dossier en commun. Nous avons beaucoup de concertations, nous avons beaucoup de communications entre les pays maghrébins, et cela tombe sous le sens, allez dire, et c'est l'évidence même. Et nous sommes ensemble solidaires au sein d'autres groupes, parce que nous faisons partie ici à l'UNESCO, par exemple, parfois du groupe Afrique, et nous constituons donc le socle des pays d'Afrique du Nord, l'Égypte additionnée. Nous sommes au sein du groupe arabe aussi, comme un groupe homogène et cohérent au sein du groupe arabe comme pays du Maghreb. Oui. Donc nous avons souvent l'occasion de nous rencontrer, de nous soutenir, et notamment dans ce qu'il s'agit de vote, de soutien ou d'appui à des positions. Donc c'est notre travail quotidien ici, et nous le faisons non seulement avec conviction, mais nous le faisons aussi de gaieté de cœur. Donc cela pour répondre à votre première question. La seconde, dans quelle mesure cette pandémie a impacté notre travail. Oui. D'abord, comme vous le voyez, nous sommes obligés de nous asseoir de manière distante, oui, de porter des masques, oui, etc. Et une grande partie du calendrier du travail de l'UNESCO et de l'Organisation de la Francophonie a été chamboulée, si vous me permettez le terme, parce que beaucoup de réunions qui nécessitaient du présentiel en grand nombre ont été soit reportées, soit annulées, soit ramenées à un format
adapté.
Vous me posiez la question sur l'événement cinématographique, par exemple. Oui. La première année, on avait des salles, il y avait 600 personnes, 800 personnes réunies pour regarder un film. Aujourd'hui, la deuxième édition ne pouvait plus se permettre cela. Et donc, cela impacte le format. Et je parle de réunions. Maintenant, nous avons plusieurs réunions qui sont organisées en ligne. Mmh. Le conseil exécutif de l'UNESCO, c'est-à-dire l'instance qui conduit la politique de l'UNESCO entre deux conférences générales, et la Tunisie a été élue membre de ce conseil, et nous en sommes membres donc depuis deux ans déjà. Cette année, nous avons été amenés, notamment la session de novembre dernier, à la repousser en décembre et à la tenir en deux séquences. La première a été totalement virtuelle, et en janvier, nous avons pu tenir deux ou trois réunions avec une distanciation et en ramenant la présence des délégations à un seul représentant, alors que d'habitude, il y a des délégations entières qui arrivent. Donc, cela impacte, mais cela aussi impacte notre mode de travail, notre rythme de travail. La session du comité du patrimoine mondial qui devait se tenir en Chine l'année dernière n'a pas eu lieu, alors que c'est un moment important dans la vie et le calendrier annuel de l'UNESCO. Oui. Et elle a été repoussée. On espère pouvoir la tenir cette année si les circonstances le permettent. Mais cela a apporté aussi de nouveaux défis au travail de l'UNESCO comme secrétariat et des États membres. Je vais vous donner un exemple. Jamais depuis que l'école a été inventée comme mode d'organisation et transmission de savoir entre les générations dans nos différentes sociétés, on n'a jamais eu ce qui s'est passé au printemps dernier et depuis, c'est-à-dire ce très grand nombre d'élèves et de professeurs qui ne peuvent plus ni aller à l'école, ni avoir des cours normaux comme on l'entendait à l'époque. Et il y a eu une coalition mondiale. Et là, je dois saluer l'initiative de Mme Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, qui avait pris les devants très vite pour créer une coalition mondiale pour sauver et pour venir en aide à cette interruption de l'école telle que nous la concevons. Et je crois qu'il faut être réaliste cela aura un impact sur nos sociétés si cette crise de l'école va durer. Nous savons quel est le rôle de l'école dans la structuration de nos sociétés modernes. Et voilà, donc il n'y a pas que le mode de travail des diplomates et du secrétariat qui est impacté, mais les thèmes même de l'UNESCO sont interpellés. Quand vous voyez que tous les événements culturels dans tous les pays du monde presque ont été annulés, ou repoussés, ou reconsidérés, c'est une grave crise de l'expression culturelle mondiale. Et là, il y a eu des tentatives de réponse pour soutenir les professionnels de la culture, les artistes, les créateurs. Il y a une interpellation directe par rapport au mandat de l'UNESCO pour ne rester que sur ces questions d'éducation et de culture. Mais quand vous savez que l'UNESCO a aussi dans son mandat la science, et donc la question du discours en faveur de la science comme outil qui nous permettra d'atteindre les résultats. Nous parlons de vaccin aujourd'hui. Ouais. Le vaccin est le produit d'une recherche scientifique. Alors, en même temps, on a vu l'émergence d'un discours anti-scientifique. C'est-à-dire pour dire, non, mais on trouvera des solutions ailleurs. Et nous savons quel type de solution nous risquons d'avoir. Et donc, il fallait que l'UNESCO rappelle la centralité du rôle de la recherche scientifique et des scientifiques dans la réponse que la communauté scientifique mondiale va apporter face à ce défi nouveau. Donc, c'est vous dire qu'il n'y a pas qu'un changement dans la méthode de travail, mais il y a une interpellation de l'UNESCO dans ses fondamentaux, j'allais dire dans son rôle fondamental par rapport à cette nouvelle crise qui est une crise sanitaire, qui est devenue une crise de l'école, une crise économique, une crise de nos sociétés, et donc il y a un impact évident sur le travail, sur la perception même. J'allais dire une crise dans une dimension ou d'une dimension éthique par moment.
Ce fut passionnant en tout cas de vous écouter, raconter vos différentes activités et les différents programmes que vous proposez au sein de l'UNESCO, monsieur son excellence l'ambassadeur délégué permanent de la Tunisie à l'UNESCO. Merci de nous avoir accueillis ici et
merci
de nous avoir fait voyager au travers de la culture tunisienne.
Vous êtes toujours les bienvenus et j'espère qu'on aura l'occasion la prochaine fois de parler d'autres choses qu'on aura faites, mais j'espère en parlera dans une société, je parle de société mondiale, qui aura dépassé le cap de cette crise. Et je ne suis pas sûr que l'on reviendra exactement à un monde, au monde antérieur. Le retour à l'ancien me paraît difficile. Mais en tous les cas, j'espère qu'on retrouvera une activité et une plus grande accessibilité et des secteurs à la fois sociaux, économiques, culturels, qui auront retrouvé plus de vigueur.
En tout cas, comme on dit en Tunisie, Aïchek, monsieur l'ambassadeur.
Barakallahu fikoum, marhaba bik fi kol waqt.
Et à très très bientôt. Merci de nous avoir reçus ici en direct sur France Maghreb 2.
Service, info, musique, divertissement.
France Maghreb 2.